La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, troisième volet de notre émission sur Bergson et Maritain. Le troisième volet, il s'agit de la vie de l'intelligence. Après cette œuvre, écrite en 1913 autour du bergsonisme, Maritain écrira en 1924 « Réflexions sur l'intelligence ». Et on sent bien qu'il y va de l'avenir de la philosophie. Nous nous étions arrêtés dans l'émission précédente sur un schéma de l'homme, schéma qu'il va élaborer de manière très visible par un dessin que l'on retrouve dans l'intuition créatrice dans l'art et la poésie en 1953. Mais ce schéma s'articule finalement sur une réflexion autour de l'intuition. Voilà ce qu'écrit Maritain dans la préface à la seconde édition de la philosophie bergsonienne. Page 43 dans le tome 1 des œuvres complètes. Tous les grands philosophes ont reconnu l'existence et la nécessité d'une intuition à laquelle est suspendue leur sagesse. C'est sur la nature de cette intuition qu'ils se divisent, autant à vrai dire que sur la nature de l'être humain, qu'Aristote seul a su regarder d'un œil paisible, comme un animal doué de raison. L'authentique intuition nourricière de la connaissance humaine et de la philosophie, ce n'est pas une intuition intellectuelle angélistique, réservée aux sages, comme l'intuition platonicienne des idées séparées, ou comme la connaissance du troisième genre de Spinoza, ni une intuition intellectuelle angélistique, accessible à tous, comme l'intuition cartésienne de la pensée et des idées claires, ni une intuition intellectuelle supra-individuelle, comme la communion hegélienne de l'esprit universel avec lui-même, ni une intuition supra-intellectuelle continuant l'intelligence et transcendant toute l'expérience du sens comme l'extase de Plotin, ni une intuition supra-intellectuelle contrariant l'intelligence et plongeant dans l'expérience du sens comme le repli par lequel, chez Schopenhauer, la volonté prend conscience de soi, ou comme l'intuition bergsonienne de la durée. C'est une intuition intellectuelle humaine, l'intellection de l'être, qui de soi suprasensible est saisie directement dans le sensible auquel il est immanent et poursuivie jusque dans le pur spirituel analogiquement atteint, intellection d'abord rudimentaire et naturellement progressive, comme tout ce qui est humain, est dû au procédé essentiellement humain de l'abstraction des intelligibles. Voici un raccord qui est fait entre intelligence et intuition à travers cette expression « intuition intellectuelle humaine ». Maritain a passé en revue finalement différentes interprétations de l'intuition. Il va vite, on pourrait dire qu'il systématise, mais je pense qu'il va davantage au cœur, avec des formules concises, dans une vision très aquiline, hein, au sens d'un aigle qui vole en hauteur et qui perçoit finalement la caractéristique des philosophes qui le précèdent. Cette intuition suppose une façon de concevoir la vie intellectuelle, la vie de l'intelligence, l'acte de connaissance. Et vous avez peut-être remarqué le mot immanent. L'intelligence procède par immanence, c'est-à-dire dans ce devenir intentionnel qu'elle fait de l'objet, elle devient l'objet, il y a une immanence. Elle n'est pas finalement transitive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas extérieure à l'objet et elle ne le fait pas. Je pense qu'on peut comprendre notre monde et peut-être le caractériser comme un monde éminemment transitif. Et je vais traduire en termes peut-être faux parce que trop approximatifs, mais je dirais qu'on a un monde qui se construit. Peut-être est-il lié au phénomène de l'urbanisation, de la puissance de l'homme, mais finalement, c'est l'acte transitif qui fait que l'homme construit le monde. Il peut arriver dans un paysage avec des collines, des escarpements pierreux et dire « je vais tout aplanir et faire une ville ». Il peut choisir, avoir une influence sur la vie, dire « bon, je choisirai mon sexe, je choisirai la vie ». Voilà, c'est cette manière d'être au monde qui fait que l'homme moderne est habité par ce qu'on appelle la gestion du temps, la construction, et c'est une forme de transitivisme. Maritain dit que l'intelligence et la vie d'intelligence reposent sur un acte immanent. Et c'est à partir de cette immanence que l'intuition devient intérieure à l'intelligence. Pour mieux comprendre ces subtilités, revenons vers un texte qui sera le plus dur de nos trois émissions, mais qui nous permet d'articuler finalement la pensée de Maritain avec celle du Verbe. Nous voilà ici en face d'un grand mystère et redoutable de la vie intellectuelle. Il n'y a pas d'intuition, per modum cognitionis, il traduit lui-même, il n'y a pas d'intuition intellectuelle sans concept et conceptualisation. Voilà le grand mystère. Ce que Bergson avait séparé en rabattant le concept du côté du quantifiable, du mesurable, donc d'une raison et pas d'une intelligence, pour donner à l'intuition la valeur de découvrir la vérité dans la durée, Maritain vient ressouder les deux. Et il poursuit. Et cependant, l'intuition peut être vraie et féconde. Elle est même, pour autant qu'elle est vraiment intuition, infailliblement vraie et féconde. Et la conceptualisation où elle s'exprime et dans laquelle elle a lieu peut être erronée et illusoire. Comment cela ? Rappelons-nous tout d'abord que l'intelligence voit par et dans les concepts qu'elle produit vitalement au sein d'elle-même. Promenant sans cesse par toute l'étendue de l'expérience extérieure et intérieure, et par toute l'étendue des vérités déjà acquises, son insatiable fin de réalité, en perpétuel travail de chasse aux essences, comme disait Aristote, tout ce qu'elle fait surgir en elle de concepts et de constructions idéales n'est que pour servir ce sens de l'être, qui est bien ce qu'il y a en elle de plus profond, et pour obtenir un discernement intuitif qui est son acte même. Vous le voyez, s'il s'agit de construction, c'est une construction pour servir ce sens de l'être et non pas pour s'auto-ériger en puissance ou capacité qui peut, par un acte transitif, gérer, posséder, construire le monde.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Comment comprendre la vie intellectuelle de l'intelligence, sinon en se référant au Verbe ? L'intelligence est faite pour voir. L'intuition comporte in, voir dans. cette vision s'articule, pour Jacques Maritain, finalement, sur la condition de l'homme. Nous sommes in via, c'est-à-dire en chemin, en pèlerinage, en vue de la patrie. Et quand nous serons in patria, l'activité de l'homme sera de voir Dieu et de le contempler. Nous sommes faits pour voir Dieu. L'intelligence, donc, a comme outil organiquement lié à elle l'intuition qui permet de voir. Je viens de prononcer le mot « organiquement » et je pense que c'est un mot fondamental pour la pensée de Maritain et donc pour la philosophie réaliste. L'organicité qui permet de joindre intuition et intelligence renvoie aussi à une autre organicité, celle qui va permettre de donner à la philosophie réaliste son autonomie. Nous allons lier l'intelligence, l'intuition et le verbe, mais nous pouvons, avant de le faire, rappeler le rôle de la philosophie par rapport à la théologie. Au Moyen Âge, au temps de saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien réaliste, la théologie a besoin d'un outil qui sera la philosophie. Et du coup, la philosophie est vue comme moyen pour servir la théologie. Elle est dans un lien ancillaire. Ancillaire vient du latin ancilla, ancillae, qui veut dire servante. Donc, la philosophie est vue comme servante de la théologie. Pour Jacques Maritain, c'est un petit peu désobligeant. Il faudrait que la philosophie ait sa propre autonomie, tout simplement pour dialoguer avec les autres philosophes. Et n'oublions pas que l'atout de Maritain, c'est d'avoir été un philosophe à part entière. Il est agrégé, il est formé par l'université française, il était élève à Henri IV, il a fréquenté les normaliens, il a lu tous les philosophes, il n'était pas croyant. Sa conversion date de la rencontre avec Léon Blois. Et c'est complètement différent d'un élève philosophe ou théologien qui ne lira que du saint Thomas, du Aristote et du Maritain et qui n'aura pas lu ou découvert les autres philosophes avant. La force de Maritain, finalement, c'est d'être finalement un laïc et d'avoir ce bagage philosophique. Étienne Fouilloux, qui est un bon historien finalement de l'entre-deux-guerres et du christianisme, dit que finalement Maritain est le troisième homme et permet de sortir le thomisme de la posture de rempart de la théologie chrétienne. Grâce à Maritain et à sa place finalement de laïc, indépendant, autonome, tout en étant profondément obéissant et fidèle à l'Église qu'il veut servir, cette posture philosophique va lui permettre de penser la philosophie dans son autonomie tout en restant lié à la théologie. Mais le lien ne sera plus ancillaire, il sera organique. Dans un texte publié tard dans sa vie, Approche sans entrave, qui est une œuvre posthume que Jacques Maritain va apporter à l'éditeur en janvier 1973 et mourra le 28 avril de cette année-là. Donc, dans Approche sans entrave, vous avez un texte qui résume bien ce souci de Jacques Maritain de donner à la philosophie réaliste son autonomie et il compare le lien organique de la philosophie à la théologie à celui de l'embryon dans le ventre de sa mère. L'embryon est relié à sa mère par le cordon ombilical, il dépend d'elle, par la nourriture, mais il a déjà son autonomie. Un jour, il sortira, il aura son indépendance. Donc cette vision organique est fondamentale non seulement pour le rapport entre théologie et philosophie, mais aussi pour le rapport entre intuition et intelligence. Voilà comment Maritain poursuit, ce qui nous permet de mieux comprendre comment l'intuition va s'articuler sur l'intuition et le don du verbe. Rappelons-nous tout d'abord que l'intelligence voit par et dans les concepts qu'elle produit vitalement au sein d'elle-même, écrivait-il. Et il poursuit. Ce verbe spirituel, nous le formons alors comme le terme de tout l'immense outillage conceptuel, de l'univers d'idées et d'images qui habitent déjà en nous et qui résultent des années de travail, de connaissances auxquelles nous nous sommes livrés depuis le premier éveil de la réflexion dans notre esprit. S'il y a quelques manques graves ou des gauchissements et des malformations dans cette masse, autrement dit, si l'équipement doctrinal dont nous sommes déjà pourvus comporte des erreurs ou des défauts, l'effort spirituel par lequel l'intelligence, dégageant soudain, en vertu de la lumière active qui est en elle, de l'expérience et des faits rassemblés et de tous les contacts sensibles, la fraîcheur ruisselante de vie d'un nouveau visage du réel, elle touche ce visage, elle s'en empare. C'est lui qu'elle voit. Elle l'a fait surgir des choses. C'est à lui que se termine son acte d'intellection. Car c'est aux choses que va cet acte. Il ne s'arrête pas aux signes, ni aux énoncés. Eh bien, l'effort spirituel qui s'achève donc à une intuition authentique et pour autant infaillible, n'atteindra ainsi le réel que par et dans des signes qui, produits et disposés à l'aide d'un matériel préexistant grevé d'erreurs et de déficiences, l'exprimeront mal et par des énoncés plus ou moins erronés, parfois gravement, irrémédiablement erronés, aussi longtemps du moins que notre système général de concepts n'aura pas été refondu, peut-être en vertu de cette intuition même et des ruptures qu'elle produit. On le voit, l'intuition permet de connaître le réel et le concept de l'exprimer en quelque sorte. Le concept reste un signe formel, même s'il est lié à l'intuition, il peut, comme dit Maritain, être imparfait. Et c'est parce que l'intuition va s'appuyer sur ce « je », ce « moi », ce point nodal dont je parlais dans l'émission précédente, ce point nodal qui est le « soi », où s'articulent finalement les trois cônes de la dimension humaine, à savoir les sens extérieurs, les sens internes et la faculté de conceptualiser, eh bien c'est parce que cette intuition s'appuie sur ce point nodal, cette intériorité, qu'elle peut avoir cette dimension spirituelle et qu'elle est donc vraie et infaillible, comme dit Jacques Maritain. C'est ce lien entre intuition, spiritualité et intelligence qui est finalement la base de la philosophie réaliste que nous essayons d'esquisser à partir de Bergson.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Pour terminer sur des notes plus tangibles, plus concrètes, je reviendrai sur la philosophie de l'être et donc sur cette intuition de l'être. C'est la suite d'un texte proposé dans le premier volet de nos éditions. Il est extrait de Raison et raison, il est écrit en 1948 et vous le trouvez dans le 9e tome des œuvres complètes, pages 355 et 357. C'est donc sur ce texte que j'aimerais revenir pour faire comprendre ce qu'est la vie intuitive de l'intelligence qui nous permet de saisir l'être. Pour parler avec précision, cette intuition primordiale est à la fois l'intuition de mon existence et de l'existence des choses, mais d'abord et premièrement de l'existence des choses. Quand elle survient, je réalise soudainement qu'un être donné, homme, montagne ou arbre, existe, exerce cette souveraine activité, être, dans une indépendance de moi totale, totalement affirmative d'elle-même et totalement implacable. Et en même temps, je réalise que moi aussi j'existe, mais comme rejeté dans ma solitude et ma fragilité, par cette affirmation d'une existence dans laquelle je n'ai positivement aucune part, par rapport à laquelle je suis exactement comme rien. Ainsi, la primordiale intuition de l'être est l'intuition de la solidité et de l'inexorabilité de l'existence, et secondairement de la mort et du néant auquel mon existence est sujette. Et troisièmement, dans le même éclair d'intuition, qui n'est que ma prise de conscience de la valeur intelligible de l'être, je réalise que cette existence solide et inexorable, perçue en n'importe quelle chose, implique, je ne sais sous quelle forme, peut-être dans les choses mêmes, peut-être séparément d'elles, une existence absolue et irréfragable, complètement libre du néant et de la mort. Ces trois bonds par où l'intelligence se porte à l'existence actuelle comme s'affirmant indépendamment de moi et de cette pure existence objective à ma propre existence menacée et de mon existence habitée par le néant à l'existence absolue sont accomplis à l'intérieur de la même et unique intuition que les philosophes expliqueraient comme étant la perception intuitive du contenu essentiellement analogique du premier concept, le concept de l'être. J'ai choisi ce texte de Raison et raison écrit en 1948 à dessein. Pourquoi ? Parce qu'on voit le chemin parcouru depuis 1913, depuis l'opposition à Bergson. Chemin parcouru, mais qui est en même temps le même. Maritain procède, non pas par progrès, mais par approfondissement. C'est en approfondissant qu'il procède et qu'il avance. Et ce n'est pas par rupture, par angle droit, voire angle mort, ou par une vision progressiste de la philosophie. Les trois temps qu'il a déployés comme les volets d'un éventail, qui se font d'une manière instantanée par l'intuition, permettent ici de sortir d'une philosophie du néant, d'une philosophie d'un être pour la mort. Et je crois que c'est sur cette note qu'il faut rester et c'est ce qu'il faut retenir de ce dialogue avec Henri Bergson, à savoir que l'intuition et l'intelligence sont organiquement soudées, qu'elles nous permettent cette intuition de l'être qui est du solide et non pas une durée mouvante ou un changement permanent. À la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.